Je vais commencer par dire quelques mots sur Snorri Sturluson, donc ce chef islandais qui a vécu entre 1179 et 1241 et qui était également juriste, historien et poète. Et pour les spécialistes de la Scandinavie ancienne, Snorri est un véritable passeur. Il a permis la conservation de nombreux savoirs qui s'enracinent dans la culture pré-chrétienne des peuples nordiques et même germaniques. Et alors bien entendu, il faut mettre un bémol à cette présentation. Snorri a vécu 2 siècles après la conversion officielle de l'Islande, et le fait même qu'il écrive l'inscrit ipso facto dans une culture qui s'est élaborée depuis des siècles à travers l'Europe occidentale. Donc il faut savoir que la Scandinavie a été convertie autour de l'an 1000, ce qui explique en partie que les traditions pré-chrétiennes aient pu se transmettre oralement sur quelques générations avant d'être inscrites, écrites sur le parchemin. Évidemment, c'est une situation qui a suscité de nombreux doutes sur l'authenticité de ces traditions qui sont rapportées essentiellement par les Islandais, à savoir comment est-ce qu'on peut être sûr que les récits qui sont donc mis par écrit au XIIIe siècle, voire plus tard, XIVe siècle, ou même encore au XVe siècle, que ces récits n'ont pas été contaminés par la culture chrétienne et l'abondante littérature qu'elle a suscitée. Donc je ne vais pas entrer ici dans un débat qui dure depuis largement plus d'un siècle, mais donc il est important de signaler d'emblée cette question complexe, d'autant que l'essentiel de ce que nous savons sur le cheval Sleipnir provient de l'ouvrage de Snorri Sturluson qu'on appelle l'Edda. Edda en prose, ou Edda de Snorri, qui est un ouvrage composite écrit dans les années 1220. Il s'agit en fait d'une sorte de traité d'art poétique. La quatrième partie a été écrite en premier, hein, un dénombrement des formes métriques, une partie un peu technique. Vient ensuite un ouvrage qui s'appelle Skaldskaparmál, c'est-à-dire propos sur la poésie, qui se compose d'une partie narrative, où sont relatés quelques mythes, dont celui qui concerne l'origine du breuvage poétique, par exemple, et le reste de cette partie, de ces propos sur la poésie, répertorie de façon plus aride les nombreuses métaphores poétiques et les synonymes qui sont utilisés dans l'ancienne poésie dite skaldique. Je reviendrai sur ce terme dans quelques instants. Donc l'art skaldique consistait écrire de la poésie, évidemment, mais à ne jamais nommer par son nom usuel une chose. Hein. Par exemple, le mot pour cheval, hestur, dans les langues scandinaves, est systématiquement remplacé par des synonymes. Alors, blakkur, celui qui est brun, probablement, fakur, celui qui est castré, vraisemblablement aussi, jor, l'étalon, c'est le même mot que écousse, latin, on a du mal à le croire, mais les philologues le prouvent. Faxi, hein, crinière, donc là il y a des métonymies aussi. Donc au total, Snorri cite une cinquantaine de termes, soit des noms propres, soit des noms communs, pour désigner le cheval en poésie, donc Sleipnir, évidemment. Donc j'ai pris l'exemple du cheval pour des raisons que vous imaginez, mais ça vaut pour évidemment bien d'autres mots, serpent, épée, bateau, etc. Et enfin, donc, Snorri a composé le texte qui forme la partie initiale de son Edda en dernier, qui s'appelle la Gylfaginning, c'est-à-dire la fascination, la mystification de Gylfi, et qui se présente comme une joute oratoire, une sorte de dialogue didactique entre un roi suédois légendaire qui s'appelle Gylfi, qui s'est rendu chez les dieux As pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur leur pouvoir et sur leur puissance. Et donc il est confronté à une curieuse trinité, hein, le Très-Haut, l'égal du Très-Haut et le troisième, qui sont, outre la connotation chrétienne possible, liés au dieu Odin. Et donc cette partie, donc sous forme de questions-réponses, permet à Snorri de faire un récit très organisé. Une mythologie au sens propre, des conceptions païennes du monde depuis sa création jusqu'à sa destruction, le fameux Ragnarök, en passant par divers événements qui mettent en scène les principaux dieux et les déesses également. La première mention du cheval Sleipnir arrive au 15e chapitre. La question qui est posée, c'est où se trouve le lieu central, le lieu sacré des dieux? Et voici la réponse. C'est à l'endroit où s'élève le frêne Yggdrasil. C'est là que chaque jour, les dieux doivent rendre la justice. Il s'ensuit une description de cet arbre cosmique, sur lequel je vais revenir dans un instant. Puis le reste de la réponse, c'est sous la troisième racine que se trouve une source très sacrée, celle des Nornes, donc les divinités qui président au destin de chacun. C'est là, écrit Snorri, que les dieux tiennent conseil. Chaque jour, les ases y montent à cheval, en empruntant le pont des ases, Bifrost, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, c'est une désignation de l'arc-en-ciel. Les chevaux des ases portent les noms suivants. Le meilleur d'entre eux, Sleipnir, est celui d'Odin, et suit le nom de 10 autres chevaux qui ne sont pas liés d'ailleurs aux dieux qui les possèdent ou qui les montent. Quant au dieu Thor, on nous dit qu'il se rend à pied en pataugeant dans Hagé. Hein, voilà, il a une façon de marcher un peu différente. Sleipnir est ensuite mentionné au chapitre 42, un long chapitre qui le concerne indirectement, mais qui évoque les conditions un peu particulières de sa naissance. Il s'agit de la construction, du récit de la construction de Ásgarður, Ásgard, je ne sais pas comment on doit prononcer en français, Ásgard, la forteresse des dieux. Mais avant de résumer ce mythe, j'ai besoin de vous dire quelques mots pour la suite de mon exposé à propos des conceptions cosmologiques pré-chrétiennes. Les anciens Scandinaves se représentaient le monde de façon concentrique, une terre ronde. Au centre, il y avait donc Ásgard, la forteresse des As, des dieux As, et cette forteresse était elle-même entourée d'un second cercle, Midgarður, c'est-à-dire l'enclos du milieu, hein, la forteresse du milieu, qui était le monde habité par les hommes, notre monde. Et au-delà s'étendait Utgarður, c'est-à-dire le monde extérieur, hein, l'enclos extérieur, qui était peuplé de géants, enfin qui était supposé être peuplé de géants et d'autres créatures plutôt hostiles et malfaisantes à l'égard des dieux et des hommes. Ásgard au centre et Utgard à la périphérie ne sont attestés que dans la mythologie, que dans le domaine nordique, mais la notion de Midgard, le monde des hommes, étant attesté dans toutes les langues, du gothique au vieil anglais, en passant par le vieil allemand et le vieux saxon, on peut en inférer que cette vision du monde était commune à l'ensemble des Germains. Et à cette représentation concentrique et horizontale s'ajoutait une représentation verticale incarnée par l'arbre cosmique, l'arbre Yggdrasil, qui était bizarrement un frêne. Si vous voyez ce qu'est un frêne, c'est pas forcément l'image qu'on a d'un arbre cosmique, mais bon, voilà. Il semblerait également que cette idée d'un axe vertical ait été partagée par les autres Germains. Et donc, à cette représentation concentrique et horizontale et verticale, s'ajoute une troisième dimension. Le monde peut être envisagé sur un plan temporel, selon une conception cyclique du temps, avec le nom pour monde en vieux norrois Verald. C'est-à-dire, c'est le mot Welt en allemand, World en anglais, qui est une ancienne métaphore, c'est Wira Alvi, c'est-à-dire l'âge de l'homme. Hein. Donc, voilà, c'était en gros qu'on peut résumer comme ça la vision du monde. Donc, cette mise au point cosmologique, elle est importante dans la mesure où Sleipnir est justement un cheval qui passe d'un monde à l'autre. Et il n'est manifestement pas le seul, puisque, on vient de le dire, c'est à cheval que les dieux se rendent pour tenir conseil sous la troisième racine du frêne qui est au ciel, nous dit Snorri. Hein. Là aussi, il y a des gens qui ont essayé de reconstituer à quoi pouvait ressembler, d'après la description Yggdrasil, ça donne quelque chose d'un peu farfelu. Et donc, ils empruntent l'arc-en-ciel qui, nous dit Snorri, à une autre occasion, est un feu ardent, donc qui fait le pont entre la terre et le ciel. Alors je reviens à la construction de Ásgarður et à la naissance de Sleipnir. Les deux événements sont intimement liés chez Snorri, puisque l'épisode de la construction de la forteresse est en fait une réponse à la question « Qui possède le cheval Sleipnir et qu'y a-t-il à dire à son sujet ?» Je vous dis tout de suite, pas grand-chose, en tout cas dans ce texte. Donc voici le résumé de cette histoire. La scène se passe au début des temps, après que les dieux aient fondé Midgarður, donc le monde des hommes. Un jour se présente un artisan, un smidur, dit le texte, donc comme le Schmidt allemand, un artisan, tout simple, qui se présente devant les dieux et leur propose de leur construire une forteresse pour les protéger des géants au cas où, où ces géants envahiraient Midgardur. Donc il propose de le faire en 3 semestres, mais son salaire est exorbitant puisqu'il demande comme salaire la déesse Freya, qui est en fait l'équivalent, pour faire court, de la Vénus ou Aphrodite, voilà, déesse de l'amour, de la sexualité, et en plus le soleil et la lune. Donc les dieux tiennent conseil et finalement ils acceptent, mais à leurs conditions. Cet artisan devra construire la forteresse en un hiver seulement et il ne devra recevoir l'aide de personne d'autre. Et si au premier jour de l'été son travail est inachevé, il ne recevra bien sûr aucun salaire. Donc l'artisan accepte pourvu qu'on le laisse recevoir l'aide de son cheval. Mais rapidement les dieux As commencent à se faire du souci en voyant le rythme auquel progresse la construction de la forteresse grâce justement à ce cheval qui est un petit peu surnaturel manifestement. Et 3 jours avant le début de l'été, Snorri nous dit, il ne restait pratiquement plus que la porte du fort à construire. Et donc les dieux délibèrent une nouvelle fois, ils délibèrent beaucoup les dieux, pour essayer de savoir comment ils ont pu se mettre dans une situation aussi délicate et périlleuse pour eux. Et ils se rendent compte que c'est l'un des leurs, qui s'appelle Loki, qui avait, comme c'est souvent le cas, parce que Loki c'est un dieu un peu malfaisant qui joue des tours, et des tours parfois aux conséquences tragiques, qui avait donné de mauvais conseils. Alors il se jette sur Loki, il le menace de mort et ils lui disent qu'ils vont le tuer s'il ne trouve pas une solution pour les tirer d'embarras. Et la solution trouvée par Loki, c'est qu'il se transforme en jument. Donc il arrive au moment où l'artisan travaille avec son cheval, il sort d'un bois sous la forme d'une jument en rut, dit le texte. Donc il va partir dans la forêt avec cette jument, avec ce cheval. Ils vont passer la nuit ensemble et donc le cheval évidemment cesse de travailler pendant ce temps-là. Et le lendemain, en voyant qu'il ne pourrait pas achever son travail comme prévu, l'artisan entre dans une fureur de géant. Parce qu'en fait, il s'agissait d'un géant des montagnes qui avait essayé de duper les dieux. Hein. Bon, on est dans le mythe, hein, c'est un peu farfelu, comme toujours les mythes. Et donc, en voyant ça, les As estiment qu'ils ne sont plus tenus par les serments, puisqu'il s'agit d'un géant des montagnes. Donc, ils invoquent le dieu Thor, qui était parti à l'est tuer des géants, ce qui est une de ses habitudes. Et Thor, il arrive quand on l'invoque et il tue l'artisan géant d'un coup de son marteau. Voilà. Et Snorri conclut, quant à Loki, sa rencontre avec le cheval avait été telle que, quelque temps après, il mit bas un poulain qui était gris et qui avait 8 pattes. C'est le meilleur des chevaux chez les dieux et chez les hommes. C'est une généalogie qui est également mentionnée dans un poème de Ledda. Donc Ledda, c'est un... Alors, Snorri a écrit un livre en prose qui est donc ce traité d'art poétique avec toute une partie narrative où il raconte la mythologie. Mais il y a une autre Edda, dite Edda poétique, qui sont des recueils de poèmes mythologiques et héroïques d'âge hiver qui plongent évidemment loin dans la pensée, enfin dans l'idéologie païenne, mais qui sont souvent suspectés d'avoir reçu des influences chrétiennes. Et celui-là, celui dont je parle, qui mentionne aussi cette histoire-là, enfin le lien généalogique de Sleipnir, il est peut-être récent, plus récent même que Snorri, donc ce qui amoindrit évidemment sa valeur de témoin. Certains chercheurs ont voulu voir dans ce mythe de la conception de Sleipnir par Loki un motif récent, voire une pure invention de Snorri. Et le fait que son nom soit relativement peu mentionné dans la poésie skaldique serait également un argument en faveur de cette thèse, d'après ses détracteurs, si on peut dire. Alors, j'ai employé plusieurs fois l'adjectif skaldique. Le vieux norrois skald désigne un poète au sens le plus large du terme, mais la recherche moderne a réservé à ce terme le sens de poète généralement attaché au service d'un roi ou d'un chef. dont ce skald, justement, avait pour mission de chanter les exploits. Et donc, les plus anciens skalds, dont on est conservé les strophes, ont vécu au IXe siècle, donc bien avant la christianisation. Et leurs poèmes, que, soit entiers, soit sous l'état de fragments, nous sont parvenus grâce aux sagas, qui les intègrent volontiers dans leurs discours en prose, hein, pour illustrer le propos ou donner un petit goût archaïsant. Donc, il y a un débat sur leur authenticité. Et s'il y a des poèmes qui sont manifestement apocryphes, un certain nombre sont reconnus comme véridiques, enfin authentiques, par la plupart des spécialistes. Donc je referme ma parenthèse sur la poésie skaldique et j'en reviens à la conception de Sleipnir. On pourrait avancer au contraire que ce récit est ancien dans la mesure où il présente deux caractéristiques importantes du mythe. D'une part, sa fonction étiologique, beaucoup de mythes ont cette fonction-là, et d'autre part, la transgression. Et dans le cas de Loki, il s'agit d'une double transgression, puisqu'il se transforme en animal et il change de sexe, à tel point d'ailleurs qu'il se fait engrosser par les talons. Snorri précise bien qu'il attire le cheval de l'artisan sous la forme d'une jument en rut, hein, donc il y a vraiment ce côté bestial et sexuel dans la... Enfin, c'est pas torride quoi, la lecture de ce passage, mais enfin, on met bien l'accent sur cette transgression. Il est inutile de vous dire que dans le monde des anciens scandinaves, un peu macho, être argur, c'est-à-dire homosexuel, signifiait manquer de virilité, de force physique, et n'était pas un compliment. On a conservé un récit qui est lié à la conversion de l'Islande, qui relate les aventures d'un certain Thorvaldur, dit le grand voyageur, qui rencontre un évêque saxon après avoir mené une vie de viking sur le continent. Et cet évêque réussit à le convertir, et Thorvaldur ramène l'évêque avec lui en Islande pour commencer à prêcher la vraie foi auprès de ses concitoyens. Et ça déplaît évidemment aux païens. Et on demande à un poète de composer une strophe diffamatoire sur eux. L'évêque a mis au monde 9 enfants, de tous c'était Thorvaldur le père. Donc ce qui va entraîner le meurtre de 2 hommes par Thorvaldur et le départ de l'évêque, qui trouve que ce sont des moyens pour un chrétien qui ne sont pas très chrétiennes, justement. Et cette poésie diffamatoire qui s'appelait Nith, dont les sagas donnent de nombreux exemples, était condamnée par les lois, comme le montre l'école juridique du XIIIe siècle, qu'on a conservée, et condamnée par la sanction la plus sévère, puisque c'était l'exil définitif, et l'offensé avait d'ailleurs le droit et même le devoir d'une vengeance sanglante, sans autre forme de procès. Mais aussi bien les sagas que les lois nous informent qu'il y avait une autre forme de Nith, appelée Nithstung, c'est-à-dire le bâton diffamatoire, qui consistait à planter une tête de cheval sur un bâton, éventuellement gravé de runes, et de prononcer une malédiction, qui n'était pas forcément d'ailleurs sur un registre sexuel, pour provoquer l'exil et la ruine de celui qui était visé. Donc on ne sait pas exactement quelle était la valeur symbolique du cheval dans ce cas-là. Peut-être le lien que le cheval entretient avec l'autre monde, et je vais revenir dans un instant sur cet aspect de la mythologie du cheval. Donc je reviens à la conception de Sleipnir par Loki. Dans un poème éddique, où le dieu Loki invective les dieux qui sont réunis à l'occasion d'un banquet, Odin lui répond donc à Loki de la manière suivante. « Pendant 8 hivers, tu as été sous la terre, et tu fus vache allaitante et femme, et là tu portas des enfants. Et je pense qu'il s'agit là d'une nature invertie. » C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, ces propos du dieu Odin à l'encontre de Loki font allusion à un épisode qui nous est autrement inconnu, mais qui est proche de celui de la conception de Sleipnir. Et donc, tout cela montre bien que cette conception de ce cheval à 8 pattes s'inscrit dans un contexte idéologique qui est ancien, même s'il est le fruit d'une transgression absolue. Donc on pourrait encore ajouter, pour argumenter sur l'ancienneté de ce récit, d'autres exemples de chevaux surnaturels, comme le Pégase grec, qui est né de l'accouplement du dieu Poséidon et de Méduse, l'une des 3 gorgones. Et donc Pégase va devenir, selon certaines traditions, selon version de ce mythe, le cheval de Zeus, hein, comme Sleipnir est le cheval de Odin. Et donc ses ailes signalent comme les huit pattes de Sleipnir, que c'est un cheval qui s'affranchissait des contraintes auxquelles nous sommes hélas tous assujettis, hein, à savoir on ne passe pas d'un monde à l'autre, et c'est peut-être mieux comme ça. Alors le nom de Sleipnir signifie sans doute celui qui glisse. C'est apparenté à un verbe norrois, sleppa, qui veut dire glisser, qu'on retrouve aussi en danois et dans les autres langues scandinaves, et même l'anglais to slip, donc qui signifie aussi glisser. Donc on trouve Sleipnir mentionné dans une poésie skaldique composée en Islande vers 980, qui décrit des panneaux de bois gravés dans une maison d'un grand chef, Olaf le Pan, donc des panneaux en bois représentant des scènes mythologiques. Et le poète utilise la métaphore « half Sleipnir », c'est-à-dire le Sleipnir de la mer, ou le cheval de la mer, pour désigner le bateau, ce qui est un procédé relativement courant, mais ce qui est plutôt intéressant dans la mesure où le bateau, comme le cheval, a une fonction psychopompe, c'est-à-dire transport, ils permettent le passage des âmes, de transporter les âmes de ce monde à l'au-delà. Dans un poème plus ancien, qui date de la deuxième partie du IXe siècle, c'est la potence qui est appelée « Hörva Sleipnir », c'est-à-dire le cheval, le Sleipnir des cordes. Et ce lien entre le cheval et la potence doit retenir notre attention. Plusieurs expressions poétiques illustrent cette relation qui remonte sans doute à la mythologie du dieu Odin. Odin est lié à la pendaison et plus exactement au pendu. Parmi les nombreux noms qui le désignent, on trouve, alors je vous le donne directement en français peut-être, le dieu des pendus ou le seigneur des potences ou encore Hangi, donc le pendu tout simplement. Et ce sont des dénominations qui font référence au mythe de l'autosacrifice de ce dieu qui est évoqué dans un autre poème de l'Edda, les Hávamál, les propos du Très-Haut. Je vous cite Odin qui parle à la première personne dans ce poème. « Je sais que je pendis à l'arbre battu par les vents, 9 nuits en tout, blessé d'une lance et donné à Odin, moi-même donné à moi-même, à cet arbre dont nul ne sait d'où viennent ses racines. » Sans rien à manger ni à boire, ma tête inclinée, c'est en gémissant que je ramassais les runes, puis retombais. Ensuite, le dieu apprend 9 chants suprêmes d'un géant qui est son grand-père, et il se prend un coup d'hydromel, hein, voilà. Et il acquiert comme ça la connaissance des runes, il le dit, hein. Alors je me mis à germer et à savoir, à croître et à prospérer. La plupart des spécialistes s'accordent pour penser que cet arbre battu par les vents auquel Odin s'est pendu, c'est l'arbre cosmique Yggdrasil. Or, Drasil, le second membre de ce composé, est un mot du registre poétique qui signifie cheval. Et Ygr, le premier mot, est soit un adjectif qui signifie terrifiant, soit le substantif qui correspond, donc la terreur, donc cheval de terreur ou cheval terrifiant, ou encore, c'est un des noms du dieu Odin, qui a des dizaines de noms. Hein, voilà, il a beaucoup de. C'est un dieu qui. Beaucoup d'aspects, beaucoup de facettes et donc beaucoup de noms. Voilà, le terrifiant comme nom d'Odin. Et c'est plutôt de cette façon que l'on interprète ce nom, l'arbre cosmique qui soutient le monde et donc appelé le cheval d'Odin, le coursier d'Odin. Ce qui nous renvoie à la fois à la pendaison initiatique de ce dieu et à Sleipnir. On rencontre parfois l'expression, alors en vieux norrois, Askur Yggdrasils avec un génitif. Ce qui pourrait signifier le frêne du cheval d'Odin, ce qui donnerait un autre sens, auquel cas il faudrait imaginer que Sleipnir était attaché à ce frêne, mais ça on n'en sait rien du tout. Sauf que ce complexe arbre cosmique, cheval à 8 pattes, initiation extatique, et Odin est un dieu de l'extase et de la transe, son nom est apparenté à l'allemand Wut, la fureur. Donc ce complexe renvoie à des pratiques et des conceptions probablement chamaniques. Hein. La chose fait, à vrai dire, débat depuis déjà pas mal de temps. Il y a les pour et les contre. On a une source qui est une saga écrite, légendaire écrite par Snorri Sturluson qui dit à propos d'Odin qu'il avait le pouvoir de se métamorphoser. Son corps gisait alors comme endormi ou mort, tandis qu'il était lui-même oiseau ou animal sauvage, poisson ou serpent, et qu'en un clin d'œil, il se rendait dans des pays lointains pour ses propres affaires ou pour celle d'autrui. Alors le problème, c'est que la notion de chamanisme renvoie à un complexe de croyances et de pratiques qui ne sont pas toujours bien définies. C'est souvent une catégorie un petit peu fourre-tout, où on range côte à côte des conceptions religieuses et des rituels qui ont été observés chez des populations assez différentes à travers le monde, du monde amérindien jusqu'à l'Extrême-Orient, en passant par l'Australie. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais sans entrer dans les détails, il semble quand même que la figure de Sleipnir entre dans ce schéma chamanique. De nombreuses pratiques chamaniques sont incontestablement liées au cheval. Mircea Eliade, donc l'historien des religions d'origine roumaine qui a enseigné à Chicago, je crois, et qui a consacré un livre sur le chamanisme, souligne l'importance du cheval dans ses pratiques. Ça peut être par le sacrifice préalable de l'animal, et il faut signaler que chez les anciens Scandinaves, le cheval était une des victimes sacrificielles favorites. Et même lorsque le cheval n'est pas formellement, attesté au cours de la séance chamanique, nous dit Eliade, il est symboliquement présent. Ça peut être par le recours à un bâton à tête de cheval, qu'on a déjà rencontré, hein, ou par le tambour du chaman dont les battements représentent le galop du cheval. Et l'accélération, l'intensification du tempo au cours de la séance évoque le passage du chaman et de sa monture dans les autres mondes. Ce voyage dans l'autre monde étant l'objet de la transe et donc l'essence même du chamanisme. Selon Eliade, par sa fonction à la fois psychopompe et funéraire, le cheval facilite la transe, le vol extatique de l'âme dans les régions interdites, et la chevauchée symbolique traduit l'abandon du corps et la mort mystique du chaman. Ça, c'était une citation d'Eliade. Ce qui est plus troublant encore, c'est que Mircea Eliade cite dans le contexte de chevaux qui permettent au chaman à la fois une sortie de soi et un franchissement d'autres mondes. Il cite des exemples d'autres chevaux à huit pattes, octopodes, il dit. Et ça, c'est intéressant. On a ça chez les bouriates de Sibérie et jusqu'au Japon, hein, des exemples de chevaux à huit pattes. À la lumière de ces quelques informations sur les pratiques chamaniques, il est évident que les mentions qui sont faites de Sleipnir dans la littérature mettent en évidence sa capacité à passer d'un monde à l'autre. Dans la deuxième partie de son Edda, Snorri raconte qu'un jour, Odin chevaucha Sleipnir jusqu'au monde des géants et arriva chez celui qui s'appelle Hrungnir, qui est un géant dont le bruit signifie, comme souvent chez les géants, celui qui fait du bruit. Le géant demande à Odin qui il est. Qui est cette tête coiffée d'un homme d'or et chevauche par les airs et sur la mer? Et il ajoute que son cheval semble extraordinairement bon. Odin le met alors au défi, il lui assure qu'il ne se trouve pas d'aussi bons chevaux chez les géants et il met sa tête en gage. Le géant répond alors que Sleipnir est certes un excellent cheval, mais que le cheval que lui possède, qui s'appelle Gullfaxi, qui est la crinière d'or, hein, c'est tout un programme, doit être capable de faire des enjambées bien plus grandes. Et donc, comme ils sont aussi idiots l'un que l'autre, il s'ensuit une poursuite. Mais Sleipnir a toujours une colline d'avance, dit Snorri, montrant un petit peu les distances parcourues. Et le géant ne réalise pas qu'il s'est laissé entraîner jusqu'à la forteresse des dieux, où il se fait massacrer finalement par le dieu Thor, une fois de plus. Snorri rapporte encore une péripétie où intervient Sleipnir, mais dans des circonstances beaucoup plus dramatiques, qui sont celles de la mort du dieu Baldur. Donc Baldur, un dieu bon, tué par son frère aveugle, guidé par la malignité de Loki. Hein, enfin, je ne raconte pas l'histoire, ce serait trop long. Et donc Odin, qui est le père de Baldur, est évidemment affligé par la perte de son fils, et c'est l'un de ses autres fils, qui s'appelle Hermodur, qui se propose d'aller rechercher le défunt Baldur aux enfers. Et c'est bien sûr avec Sleipnir que ce jeune dieu, fils d'Odin, Hermodur, se rend aux enfers. Et en effet, il faut un cheval exceptionnel pour se rendre dans ce monde infernal. Snorri nous dit qu'ils ont chevauché 9 nuits durant par des vallées sombres et profondes jusqu'à ce qu'il arrive à un fleuve appelé Gjoll, celui qui résonne, dont il franchit le pont. Il s'adresse alors à une jeune fille qui garde le pont, c'est naturel, et qui lui dit que la veille, cinq troupes d'hommes morts ont déjà franchi ce pont à cheval. Hein. C'est pas un hasard, à chaque fois, on lui dit que ces opérations-là se font à cheval. Donc, après quoi, ce fils d'Odin, Hermodur, continue sa route vers le chemin de l'enfer, qui se trouve encore plus bas et vers le nord, bien sûr. Et une fois arrivé aux grilles des enfers, il met pied à terre, il sangle bien ce Sleipnir, il remonte remonte en selle, il donne un coup d'éperon et Snorri nous dit le cheval sauta si puissamment par-dessus la grille qu'il ne la frôla en rien. Après quoi, il continua à cheval jusqu'à la halle où se trouve la déesse des enfers, Hel, et oui, se trouvait aussi son frère qu'il ne parviendra pas à ramener dans le monde des vivants. Mais ça, c'est une autre histoire qui ne nous intéresse pas pour l'instant. Dans un poème, un autre poème de Ledda, qui est probablement tardif, qui s'appelle « Les rêves de Baldur », on a une autre version. Donc Baldur a des rêves funestes, il rêve de sang et de mort. Donc Odin lui-même entreprend un voyage jusqu'au monde glacé et souterrain de Niflheimr, qui est une espèce d'enfer aussi, en chevauchant Sleipnir, toujours, pour interroger, grâce à sa magie, on a vu qu'il était... non, je ne l'ai pas dit, quand il était... J'ai dit qu'il était dieu des pendus, il sait susciter les pendus, hein, les réveiller, les invoquer, pour apprendre, pour avoir des informations. Et il a une pratique nécromancienne assez étendue, parce que là, il arrive, il y a une voyante qui est morte et enterrée depuis longtemps, et il va l'invoquer pour savoir si les rêves funestes de son fils Baldur vont se réaliser. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'il a toujours pris Sleipnir pour se rendre dans cet autre monde. Dans un autre poème eddique qui s'appelle « Le voyage de Skirtnir », qui est un poème plus ancien, quant à lui, on a un contexte différent. C'est un autre dieu qui s'appelle Freyr, qui est un dieu plutôt de la richesse et de la fécondité, qui s'est assis sur le siège magique d'Odin, grâce auquel on peut voir ce qui se passe dans tous les mondes. Et donc Freyr aperçoit dans le monde des géants une très belle jeune fille dont il tombe évidemment aussitôt amoureux. Et immédiatement, il est en proie à une langueur et une tristesse due à son amour impossible. Et c'est son serviteur qui s'appelle Skirtnir, donc qui a donné son nom à ce poème, qui finit par accepter de se rendre jusqu'au monde des géants pour demander la main de la jeune fille. Mais il demande à son maître qu'il lui donne un coursier qui puisse se porter à travers le mur de flammes ardentes qui forme une sorte de frontière avec le monde des géants. Et aussi son épée qui se bat tout seul contre les géants, ça c'est pratique aussi. Donc le poème ne précise pas s'il s'agit dans ce cas-là du cheval Sleipnir, mais une fois de plus, il faut une monture exceptionnelle pour passer d'un monde à l'autre. Et de toute façon, Sleipnir n'est pas le seul cheval surnaturel. Snorri nous relate deux mythes parallèles liés au cycle circadien. Le premier nous apprend qu'une géante qui s'appelait Nort, c'est-à-dire la nuit, et qui était noire et sombre comme la race dont elle était issue, puisque c'était une géante, avait un fils, d'ailleurs, le jour, qui était lui brillant et beau, parce qu'il était apparenté au dieu As. Et un jour, Odin prit la mère et le fils, et il leur donna deux chars et deux chevaux, et les plaça haut dans le ciel en leur enjoignant de chevaucher chaque jour autour de la terre. Not vient en tête, montée sur le coursier Hrimfaxi, c'est-à-dire crinière de givre, et chaque matin, ce dernier couvre la terre de rosée avec l'écume qui dégoutte de son mors. Et donc le cheval que possède Dagur s'appelle Skinfaxi, c'est-à-dire crinière brillante, et de sa crinière il éclaire l'air tout entier ainsi que la terre d'où Snorri. Et pour que ça aille plus vite, les dieux ont mis des loups derrière qui poursuivent ces chars de la nuit et du jour. L'autre récit concerne le soleil et la lune. Snorri nous dit qu'un homme avait deux enfants qui étaient si beaux qu'il avait appelé sa fille Sol, c'est-à-dire le soleil est féminin dans les langues germaniques, et lune est masculin. Et le garçon, Maoni, donc la lune. Mais les dieux veulent punir l'arrogance de cet homme qui a nommé ses enfants du nom des astres. Et donc, ils se saisissent de ce frère et de la sœur et les envoient tout en haut dans le ciel. Et ils font conduire par Sol les chevaux qui tirent le char du soleil. Lequel avait été créé par les dieux, nous dit Snorri, pour éclairer les mondes. Quant à Maoni, donc le monsieur lune, il a pour responsabilité de diriger les mouvements de l'astre lunaire. Et les deux chevaux qui tirent le char du soleil s'appellent Alvakur, celui qui est réveillé tôt, ce qui est normal, le soleil se lève tôt, et Alsvidur, celui qui est très rapide. Et comme les anciens scandinaves étaient des gens très pragmatiques, on nous dit que sous les épaules des chevaux, les dieux avaient installé des soufflets pour refroidir un peu tout ça. Donc ces deux mythes font un petit peu double emploi, et du fait de leur attestation tardive, ils trahissent peut-être des éléments qui relèvent d'une folklorisation de conceptions cosmologiques anciennes, qui sont quant à elles très bien attestées dès l'âge du bronze. Donc conception ancienne, mais folklorisation dans nos textes probablement, et on peut dire la même chose de Sleipnir, puisque les rares récits à son propos que nous a livrés la prose de Snorri Sturluson et quelques poèmes de l'Edda portent aussi la trace d'une folklorisation d'anciennes représentations cosmologiques vraisemblablement. En revanche, la fonction de psychopompe de Sleipnir et du cheval en général est bien attestée par toute une documentation de l'époque viking et notamment par les stèles historiées sur l'île de Gotland au large de la Suède dans la mer Baltique. On en a répertorié 440. Elles datent de l'époque viking, donc entre le 8e siècle et pour les plus récentes peut-être 10e, 11e siècle, et un certain nombre sont même encore plus anciennes, hein. Elles datent du 7e siècle. Ce sont des pierres commémoratives qui peuvent atteindre 2 et 3 mètres de hauteur, et beaucoup portent une image de bateau au centre, accompagnée de symboles abstraits et d'une multitude de petites scènes que l'on ne sait pas déchiffrer avec certitude, à quelques exceptions près, et au moins 2 d'entre elles représentent manifestement un personnage qui chevauche un cheval à 8 pattes, qui est accueilli par une figure qui pourrait être féminine et qui porte ce qui a été souvent interprété comme une corne à boire, qui l'accueille avec une corne à boire, et on interprète généralement cette scène comme une représentation du dieu Odin sur Sleipnir, ou encore comme un guerrier mort au combat, hein, un guerrier anonyme, qui arrive toujours sur Sleipnir à la Valhalla, donc la résidence, le séjour d'Odin, séjour viril réservé aux guerriers morts au combat, où on passe sa vie soit à manger un éternel festin et à boire, et à s'entretuer, après quoi on ressuscite et on recommence à boire et à manger et à se rebattre après. Donc c'est une mentalité virile de notre point de vue de gens civilisés du XXe siècle. D'autres gravures représentent également un guerrier à cheval, mais vous voyez, le cheval n'a que 4 pattes. C'est manifestement le même personnage qui l'accueille. Donc ça ressemble beaucoup. De même, Vendel, c'est une nécropole probablement royale en Suède centrale, pas très loin de Uppsala actuelle. Elle a laissé de riches matériels funéraires, et donc c'est une plaque de home donc qui montre un personnage à cheval affublé d'une lance, qui est l'arme favorite d'Odin, et 2 oiseaux qui peuvent être les corbeaux qui accompagnent toujours le dieu Odin. Et donc il n'a que 4 pattes également, dans le cas où ce serait Odin. Donc on peut se demander si Sleipnir a toujours 8 pattes, ou s'il y avait des variantes de Sleipnir à 4 pattes. D'autant plus qu'on possède un document étrange, une belle tapisserie, trouvée au début du XXe siècle dans une église du nord de la Suède, dans la province de Härjedalen. Ces tapisseries ont été datées au carbone 14 de la période viking, de façon assez vaste, ça va de 800 à 1100, mais les plus récentes datations pencheraient plutôt pour la fin du 11e siècle. Mais ce sont des panneaux tissés qui offre donc, qui présente une série d'animaux qui sont tous tournés dans le même sens. On y voit des chevaux, on y voit des rennes. Il y en a qui ont 4 pattes, mais il y en a qui ont 8 pattes. Ça complique un peu voilà, c'est une tapisserie qui a reçu évidemment différents types d'explications liées au paganisme, hein. Certains ont pensé que cette espèce de figure centrale, ce serait l'arbre Yggdrasil, hein, donc. C'est un petit peu difficile, et il est très compliqué de se prononcer. L'interprétation des documents iconographiques est quelque chose de très délicat, même si c'est un chercheur, n'hésite pas à relier les scènes qui sont représentées sur ces, donc ces, sans texte évidemment, sur ces documents, aux informations qui sont fournies par les sources littéraires. Et donc entre les entre les pierres de Gotland qui nous intéressent et l'Edda de Snorri, il s'est écoulé 4 siècles au moins, hein. Donc c'est pas évident de faire des. Il y a même des gens qui vont jusqu'à interpréter les pierres de l'âge de bronze, donc qui datent à partir de 1500 avant notre ère. Donc c'est voilà et qui trouvent des. Bon, il y a un risque de surinterprétation. Moi, je reste toujours. Enfin, j'essaie de rester prudent. Voilà. Donc on peut au mieux tenter de repérer des associations récurrentes de symboles et de scènes figurées. Et comme la fonction des stèles gotlandaises dont je parlais à l'instant semble être une fonction commémorative, on peut poser l'hypothèse qu'elles évoquent en effet l'arrivée de l'intéressé dans l'au-delà sur un cheval qui pourrait être Sleipnir ou un de ses collègues. Ils étaient peut-être plusieurs, après tout, on n'en sait rien. Et donc, si cette hypothèse est exacte, c'est des documents qui confirment le rôle de psychopompe du cheval et de Sleipnir en particulier. Il faut ajouter que Sleipnir est gris. Vous me direz, c'est anecdotique, mais pas tant que ça, parce que ça implique souvent la couleur grise, un lien avec l'autre monde. Hein. Et le gris, c'est la couleur du loup. Donc le loup, par excellence, c'est la bête qui vit un peu entre deux mondes, hein, qui fréquente le domaine des hommes, mais qui appartient plutôt au domaine extérieur. Vous avez une jolie expression suédoise pour désigner le loup qui est gråben, c'est-à-dire patte grise. Hein, voilà, donc c'est on est dans le gris. On a un poème commémoratif qui est composé après la mort du roi Håkon de Norvège, Håkon le Bon. Håkon est mort vers 960. Et donc, le poème commémoratif qui est composé à la mort de ce roi Håkon pourrait être mis en relation avec certaines stèles de Gotland, comme celle-ci, puisqu'on y voit le roi, dans la poésie, après la bataille où il a été blessé à mort, interpellé par deux valkyries montées à cheval. Hein, les valkyries sont à cheval, comme vous savez, depuis la chevauchée des Valkyries de Wagner. Et donc, c'est aussi à cheval que Håkon va se rendre en leur compagnie auprès du dieu Odin. Et l'une des Valkyries exhorte le roi: nous devons chevaucher vers le domaine verdoyant des dieux et annoncer à Odin que le souverain va venir afin de le voir en personne. Donc, cette idée que l'au-delà n'est accessible que monter sur un cheval, elle est confirmée largement par l'archéologie. On a de nombreuses tombes. Bien sûr, des tombes de chefs puissants ou de rois, où on a retrouvé un ou plusieurs chevaux qui ont été inhumés avec le mort. La célèbre tombe de Oseberg, dans le Vestfold, dans le sud de la Norvège, qui est une tombe féminine datée de 830. Cette tombe contenait, parmi un riche matériel funéraire, les restes de 12 chevaux et un bœuf. Je ne sais pas ce qu'il venait faire là, mais voilà. Mais 12 chevaux. Et un nombre identique de chevaux dans la tombe masculine, aussi royale probablement, de Gokstad, également dans la même région de Norvège, qui date des alentours de 900. Et on a retrouvé également des chevaux dans les cimetières de Suède centrale. Je parlais tout à l'heure du casque de Vendel. C'est une nécropole royale. Vous avez à côté de Vendel le site de Valsherde. Qui est aussi une nécropole royale. Encore plus, enfin, ces deux sites sont plus anciens que les sites norvégiens, puisqu'ils datent du début du 7e siècle. Et donc, ces sépultures, celles de Norvège comme celles de Suède et d'autres encore, sont des sépultures à bateau. Le corps était incinéré ou pas, et il était disposé dans un bateau avec le matériel funéraire avant d'être recouvert d'un tertre. Alors, il peut être intéressant de mettre en perspective ces tombes bateaux contenant des chevaux, très souvent, et même quasi systématiquement, avec les gravures des stèles de Gotland, qui associent elles aussi le bateau et le cheval, les deux pouvant servir pour transporter l'âme du mort dans l'au-delà. Se faire enterrer avec son cheval ou avec plusieurs chevaux n'est pas restreint à la Scandinavie. La tombe de Childéric Ier, le papa de Clovis, chef franc, qui est mort en 480 et qui a été retrouvé au XVIIe siècle à Tournai, comportait aussi. On avait Childéric était enterré avec sa monture, et à proximité de sa tombe, on a retrouvé trois fosses disposées d'une manière qui laisse entendre qu'elles avaient été aménagées à l'occasion du rituel funéraire, les restes de 21 chevaux donc autour de lui. Et donc on pourrait multiplier évidemment les exemples, y compris en dehors du monde germanique, pour illustrer le rôle funéraire du cheval. On a un témoignage intéressant d'un rituel mortuaire dû à un voyageur arabe du Xe siècle, Ibn Fadlan, qui a rencontré des rousses, c'est-à-dire des vikings suédois partis sur la route de l'Est, et en l'occurrence sur les bords de la Volga. Et donc ce voyageur arabe, qui était une sorte d'ambassadeur, il décrit les mœurs de ces vikings suédois, et en particulier l'inhumation, ou plutôt l'incinération d'un de leurs chefs, dont il est manifestement le témoin direct. Et avant d'être brûlé dans son bateau, donc ses compagnons, les vikings, se livrent à toute une série de rituels funéraires, dont le sacrifice de deux chevaux, à côté d'autres sacrifices d'animaux. Il y a un chien, un coq, je ne sais plus quoi d'autre encore. Mais la façon dont les chevaux sont préparés est particulièrement intéressante. Les autres, ils disent juste qu'ils les mettent ils sont sûrement tués et mis à côté du corps. Pour les chevaux, il dit, ils prirent deux chevaux, les firent courir jusqu'à ce qu'ils fussent en sueur, puis ils les coupèrent en morceaux à coups de sabre et jetèrent leur chair dans le bateau. Hein. Il est possible qu'en faisant courir les chevaux juste avant de les sacrifier, on ait comme pris sur le vif leur énergie, hein, qui était après retransposée pour permettre effectivement le passage. Ça peut vous paraître un peu horrible, mais avant les chevaux, après avoir violé une jeune esclave, ils la mettent à mort en la strangulant et en lui enfonçant un poignard entre les côtes. Et peut-être aussi que deux chevaux, c'est une hypothèse un peu farfelue, mais ça fait un septenir, hein, quatre pattes plus quatre pattes, ça fait huit pattes, sait-on jamais. J'ai déjà signalé que les chevaux, à l'époque pré-chrétienne, étaient très présents dans les rites sacrificiels. Une de nos sources, qui est un des tout premiers ouvrages, a été en langue vernaculaire, avoir été écrit non seulement en Islande, mais en Scandinavie, qui s'appelle le livre des Islandais, nous raconte qu'après la décision relativement consensuelle de se convertir au christianisme à l'Assemblée Générale en été 999, il fut proclamé dans les lois que tous ceux qui n'avaient pas été encore baptisés dans le pays devaient l'être dorénavant. Mais les anciennes lois devaient prévaloir en ce qui concernait l'exposition des enfants. Quand un enfant était contrefait, on le mettait entre deux pierres dans la campagne. C'était pas très élégant, mais voilà. En ce qui concerne l'exposition d'enfants et la consommation de la viande de cheval, les hommes avaient le droit de sacrifier en secret s'ils le désiraient, mais s'il y avait des témoins, la chose serait passible d'une sanction. C'est un peu hypocrite. Le texte ajoute qu'au bout de quelques années, ces dispositions en faveur du paganisme furent finalement abolies. Donc on voit que la dernière chose à se maintenir ou à être tolérée, c'est le sacrifice du cheval, en tout cas en milieu islandais. Je terminerai cet exposé en signalant que cette mythologie du cheval, elle est très connotée socialement. Les chevaux étaient plutôt réservés à l'élite de la population, et Odin, le cavalier de Sleipnir, qui parmi ses nombreux surnoms, comme je vous l'ai dit, en possède deux ou trois qui sont clairement liés au cheval. Odin est le dieu de l'élite, et il patronne la magie, la poésie, l'ivresse. À cette époque-là, l'ivresse, c'était plutôt un signe de réussite sociale, enfin d'appartenance sociale, il n'y a pas de réussite sociale, justement. La victoire à la guerre et non le combat lui-même. Un autre poème eddique exprime très clairement, il dit à un moment, Odin possède les jarls. C'est dommage qu'Adonis soit parti, qui tombe au combat, donc c'est un des plus hauts titres nobiliaires avec le roi, tandis que Thor possède la race des esclaves. On a d'ailleurs le témoignage d'un autre poème éddique, hein, je les aurais presque cités tous, qui s'appelle la Rigthula, qui relate l'origine des classes sociales, avec des guillemets, et où on a un certain Rigur, que l'introduction en prose de ce poème nous présente comme équivalent à un autre dieu qui s'appelle Heimdall. Et donc ce Rigur se promène le long du rivage, il arrive dans une maison pauvre habitée par un couple, l'aïeul et l'aïeuleux, hein, donc l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère, qui sont crasseux et vilains. Il mange avec eux et il va passer trois nuits avec eux dans leur couche. Et 9 mois plus tard, l'arrière-grand-mère met au monde un enfant mal proportionné, noiraud, épais, etc., qu'on appelle Thraitl, c'est-à-dire esclave. Il grandit et il va rencontrer une femme qui lui a sorti, donc un peu courtaude, avec des gros mollets, etc. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, j'ai aucun mépris. Et donc, ils ont des enfants qui sont liés à leurs conditions serviles et qui s'occupent de travaux serviles, comme garder les cochons, hein, c'est dit, ou extraire la tourbe pour le chauffage. Et après quoi, Rigur continue son chemin, donc toujours au bord du rivage, et il arrive à une seconde maison, hein, c'est presque l'histoire des 3 petits cochons que je vous raconte. Où vit un autre couple, cette fois c'est grand-père et grand-mère, et le même scénario se reproduit, donc il va dans le lit avec les deux, et 9 mois plus tard, c'est un garçon qui s'appelle Karl, donc Karl c'est l'homme, le paysan plutôt, hein. Il est robuste, il est rouquin, il a les joues rouges, et lui il sait dresser des bœufs, construire sa maison et s'occuper de l'exploitation, cultiver la terre, et il rencontre aussi une femme qui lui ressemble, une robuste paysanne, et ils ont des enfants dont les noms sont liés à l'exploitation agricole. Et enfin, c'est ce qui nous intéresse. Rigur s'en va à nouveau, il arrive sur une troisième maison, mais très belle celle-là, celle de père et de mère. La femme s'occupe de la maison et lui, il est en train de fabriquer un arc et des flèches. Donc il passe encore 3 nuits avec eux. Et 9 mois plus tard, la mère donne naissance à un enfant blond aux joues claires qui s'appelle Jarl. Justement, donc le noble. Et celui-là, il apprend le maniement des armes, l'art de la chasse et bien sûr l'équitation, hein. Il chevauche des coursiers, nous dit le texte. Et il va mener une vie de guerrier, hein. Il chevauche beaucoup. Et il rencontre une jeune femme au teint clair et aux doigts fins, nous dit le poème, dont les enfants vont eux aussi apprendre à s'occuper des armes et à dresser des chevaux. Et parmi les fils de Jarl et de sa femme, et le jeune fils Konur Ungur, c'est un jeu de mots parce que Konungur, ça veut dire le roi en norrois. Et sur les 14 strophes qui sont consacrées à Jarl et à ses fils, sur un total de 48 strophes, il est question à 7 reprises d'activités liées au cheval. Donc le poème signifie donc très clairement que le cheval est lié à l'aristocratie, hein, que les activités équestres ne sont pas pour les manants, hein. Il y a un contraste très net, bien exprimé dans le texte, hein. L'esclave, c'est les cochons, le paysan, c'est le bœuf, et le noble, c'est le cheval. Et donc pour conclure rapidement, paradoxalement, la figure de Sleipnir, qui n'est pas très présente finalement dans nos sources écrites, puisqu'il n'apparaît que comme figure secondaire dans les différents mythes, hein, c'est qu'un outil, hein, un véhicule, on peut dire. Certes à 8 pattes, mais un véhicule quand même. Oui, le paradoxe, c'est qu'il est venu petit à petit à symboliser le paganisme. Son image est très souvent reproduite dans tous les livres sur la mythologie ou sur les Vikings, peut-être en raison de son apparence étrange avec ses 8 pattes. Et donc, c'est devenu une espèce de symbole. Un chercheur allemand qui s'appelle Rudolf Simek, qui a écrit un dictionnaire d'abord en allemand, et puis ça a été traduit en anglais de la mythologie nordique. C'est lui qui dit que le Sleipnir, c'est récent, le truc a été inventé par Snorri, mais en couverture de son bouquin, il y a les deux représentations des stèles de Gotland. Donc on le voit représenté très, très souvent, et même les Norvégiens ont donné dans les années 70 un des puits de pétrole qu'il fore. Ils ont donné le nom de Sleipnir. Voilà.